la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le 30 avril 2026, le dernier jour d'avril. Un mois qui s'achève avec tout ce qu'il a porté, ses aventures, ses surprises, ses petits chaos pour laisser place dès demain au mois de mai. Et comme j'aime le dire à chaque tournant du calendrier, s'il te plaît, mais sois bon, be kind and make the month great. Dès demain, on veut des muguets, on veut du soleil, de la bonne humeur qui déborde des terrasses, on veut des mariages, des faire-part qu'on affiche sur le frigo, des bonnes nouvelles, on veut du pas cher, on veut de la liberté aussi. Même si pour certains ça fait un peu désolé, je ne dis pas de gros mots. On veut de l'amour, on veut des fleurs de saison, des fraises d'origine France s'il vous plaît, celles qui tachent les doigts et qui sentent encore quelque chose. On veut des bisous, on veut être pieds nus dans l'herbe, on veut une belle lune ronde ou pas. On veut du vent sur la peau, on veut de la confiance en soi, dans les autres, dans le lendemain et en la vie. On veut des émotions, on veut de la persévérance, on veut de la fierté. On veut des frissons, on veut des regards croisés qui durent au moins une seconde pour qu'on tombe amoureux. On veut des étoiles, on veut des poèmes, on veut aussi des folies, douces ou pas. On veut des décisions prises sur un coup de cœur ou sur un coup de tête. On veut du pop-corn, je crois que des super films ce mois-ci, du sucré, du salé, on ne juge pas ici, hein, chacun ses goûts. On veut aussi des bières ambrées, blondes ou blanches, peu importe, pourvu qu'elles soient fraîches et partagées. On veut des rêves pour ce mois de mai, on veut des promesses, on veut des premières fois, on veut la vie belle, grande, inattendue, magique. Et comme en mai, fais ce qu'il te plaît, eh bien mai, on t'attend, on est prêt. Alors ce soir, bye bye April, je nous souhaite tout ça et même un peu plus. Au sommaire de cette matinale de 19h, Renaud et Aude à la réalisation, Marine à l'interview, notre invité Alexis Chailloux, responsable des politiques transport au réseau Action Climat. Le tour de l'actualité, le flash info, ce sera avec Salomon Patrick Mépo, suivi de la chronique Actu de Anaïs. En deuxième partie de cette matinale, à l'occasion de la sortie de son troisième album intitulé Africacy, l'artiste Abraham Mansfarol sera avec nous. Et enfin, pour finir, et pas possible de le faire autrement, hein, ce sera Gauthier avec sa chronique humoristique. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Alors, on nous répète qu'il faut privilégier le train pour nos voyages, moins polluant, plus responsable et surtout plus cohérent avec les enjeux climatiques. C'est vrai que sur le papier, tout le monde est d'accord, hein, mais dans la réalité, c'est une autre histoire. Voyager en train vers l'Europe, un casse-tête pour les passagers, c'est le titre du dernier rapport de Réseau Action Climat, sujet donc de notre grande interview avec notre invité Alexis Chailloux. Et cette interview est menée par Marine. Bonsoir Marine.
Bonsoir Francesca, bonsoir Alexis, est-ce que vous nous entendez bien ?
Je vous entends bien, est-ce que vous m'entendez bien, vous ?
Oui, c'est parfait, merci d'être avec nous ce soir dans la matinale de 19h. Donc comme nous vous a présenté Francesca, vous êtes responsable aérien et ferroviaire pour l'ONG Réseau Action Climat. Et en fait, on a voulu vous inviter car votre dernier rapport publié, donc Voyager en train vers l'Europe, un casse-tête pour les passagers, a vraiment titillé notre curiosité, surtout qu'on s'approche des ponts de mai, là enfin ils arrivent. Et pour certains et certaines, l'envie de bouger se fait ressentir. Prendre un petit week-end au bord de l'eau, partir au grand air, ou alors rendre visite à ses parents, ou encore découvrir une capitale européenne. Les possibilités sont variées, en mai tout est permis, et on a quand même l'impression que parfois la SNCF se permet aussi tout avec la tarification des billets. Un sujet que nous allons aborder, mais tout d'abord, Alexis, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre ONG Réseau Action Climat, s'il vous plaît ?
Oui, avec plaisir. Donc le réseau Action Climat, c'est un réseau, comme son nom l'indique, qui regroupe les principales, en tout cas beaucoup des grandes associations environnementales que vous connaissez sûrement. Donc on a dans nos membres Greenpeace, WWF, France Nature Environnement, et comme ça une vingtaine d'organisations. Et on travaille sur à peu près tous les sujets qui ont trait au réchauffement climatique, ou plutôt à la limitation du réchauffement climatique. Donc les transports, ça on va en parler ensemble, mais aussi l'agriculture, l'énergie, le logement et plein d'autres.
Et pourquoi votre poste a-t-il un peu été urgent de créer ? Est-ce que c'est un poste nouveau qui a été créé dans cette ONG ? Est-ce qu'il y avait des raisons particulières pour sa création ?
Non, disons que les transports, depuis qu'on mesure les émissions de gaz à effet de serre, c'est un des principaux contributeurs au niveau français, hein, avec l'agriculture, je le disais, avec l'énergie, etc. Mais les transports, c'est vraiment un petit tiers des émissions de la France. Et du coup, c'est hyper important pour nous d'essayer de limiter les émissions de ce secteur-là, avec à la fois la voiture, ça on le sait, hein, ça pollue, ça émet du CO2, mais aussi l'avion, qui est parfois un peu sous-estimé. On se dit que l'avion, on le prend pas si souvent, ça ne doit pas polluer tant que ça. Le problème, c'est que l'avion, même en le prenant très peu, ça peut polluer beaucoup.
Et donc, dans votre travail, vous vous intéressez à donc tous les modes de transport, pas forcément le train ou l'avion. Est-ce que vous vous intéressez aussi, par exemple, à la voiture, au bus, qui est aussi un mode de fonctionnement de transport qui est très utilisé pour les jeunes, parce que c'est des tarifs assez, assez bas. Est-ce que vous prenez en compte tous ces transports-là ?
Oui, tout à fait, avec peut-être deux logiques un petit peu différentes. La première, c'est ce qu'on appelle les transports du quotidien. Donc, c'est les transports qu'on va prendre tous les jours pour aller à la fac, au travail, aller faire des courses, faire ses activités. Bref, ces activités quotidiennes qui sont beaucoup la voiture en France encore aujourd'hui. Hein. On a dans les grandes métropoles des solutions qui sont alternatives à la voiture. Donc, les transports en commun, le métro dans les très grandes villes, les bus du quotidien, le vélo, etc. Mais une bonne partie de la France et des Français sont quand même aujourd'hui dépendants de leur voiture pour le transport du quotidien. Une deuxième approche qui est plutôt ce qu'on appelle le transport longue distance. Alors longue distance, c'est pas forcément faire des dizaines de mille kilomètres, mais disons que c'est des déplacements qui sont plus occasionnels pour aller voir de la famille, pour partir en congé, pour aller faire un déplacement professionnel. Et dans ces cas-là, absolument, on regarde les différentes options, de la moins polluante à la plus polluante. La moins polluante est de très loin le train, mais évidemment le bus en particulier, si le bus est bien rempli, va être moins polluant que si on prend sa voiture tout seul.
Évidemment. Et là, dans cette interview, notamment parce que vous venez de publier un rapport sur le sujet ferroviaire, est-ce que vous diriez que le train actuellement est à la mode ? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que c'est un mode de transport qui est à la mode ? On en entend pas mal parler sur les réseaux sociaux actuellement, un peu pour aller à contre-courant de toute cette utilisation de l'aérien. Est-ce que on peut dire que le train est à la mode ?
Alors, on peut dire plusieurs choses. On peut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui voyagent en train, de plus en plus de voyages en train. Ça, on le voit, les chiffres sont très clairs. Chaque année, on a plus de voyages en train, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si en parallèle, il y a de plus en plus de voyages en avion, donc on n'est pas complètement gagnant sur cette histoire-là pour l'instant. On peut dire que le train a une image, alors on va dire ambivalente, hein, avec souvent associé au retard, souvent associé à des difficultés, à des grèves, et en même temps une image romantique quand même du train, lié à beaucoup de films ou à une partie de la pop culture, ou une image aussi contemplative, poétique un peu du train, où on peut regarder le paysage, où on peut aussi faire autre chose que dans l'avion, dans la voiture. Quand vous conduisez, en général, vous pouvez écouter la radio, mais vous pouvez pas faire usage de vos mains, en tout cas, c'est pas recommandé. Quand vous êtes dans le train, vous pouvez travailler, lire, jouer, flâner, aller manger, marcher, changer votre enfant, vous pouvez bouger. Et vous avez en général plusieurs heures devant vous, là où dans l'avion, vous allez avoir quelque chose de plus haché. Donc, on peut dire que oui, c'est à la mode, et on peut dire que en tout cas, il y a une appétence pour le train très claire. On peut dire que ça véhicule des imaginaires plutôt intéressants. Après, aujourd'hui, le mode de transport qui est associé au voyage encore, c'est l'avion. Je le dis pas, j'en veux pour preuve, si vous tapez dans Google Images, voyage, pas voyage en avion, hein, mais voyage. Vous allez voir des images d'avions et de plages. Vous n'allez jamais tomber sur des images de train. Et donc ça dit quelque chose de l'imaginaire dominant qui est, si on veut s'échapper, si on veut partir en voyage, c'est tout de suite la plage tropicale, ou en tout cas la plage de sable fin dans un climat chaud, et l'avion qui sont associés. Et ça, c'est dommage, parce que vous mettez cet imaginaire-là, plus les low cost avec des prix à 15 euros pour aller dans les Baléares ou ailleurs. Et là, vous faites qu'une bonne partie de la jeunesse choisit l'avion pour partir en vacances.
Alexis, je vais faire le parallèle avec justement le rapport. Alors là, si on tape avion, alors je trouve que c'est quand même très compliqué aujourd'hui de réserver sur un trajet européen, alors que réserver un vol, ça prend très honnêtement en deux clics. Alors pourquoi, d'après vous?
Alors il y a plusieurs raisons pour ça. La première, elle est physique, on va dire. Celle-là, on peut l'expliquer. Un avion, il n'a pas besoin de rails. Les seules infrastructures dont on a besoin, c'est deux aéroports. Après, bon, il passe dans le ciel. C'est relativement simple. On comprend que pour un train, il faut des rails. Et donc, on est un peu dépendant du réseau ferré tel qu'il existe. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui est une partie de l'explication, même si c'est pas du tout la seule, qui fait que nous, on a regardé les principales liaisons aériennes aujourd'hui entre la France et l'Europe. Principal, ça veut dire qu'on transportait au moins 1 million de personnes en 2024. Et ce qu'on voit, c'est que les trajets directs, donc où vous n'avez pas à faire de changement, sont plutôt une minorité, sont plutôt l'exception. Dans l'immense majorité des cas, on va dire presque les trois quarts des cas, vous allez devoir faire au moins un changement pour arriver à destination. Je prends un exemple très concret, ça sera plus parlant. Voilà. Paris-Madrid, qui est la liaison aérienne la plus empruntée entre la France et l'Europe, 5 millions de passagers par an. Paris-Madrid, en train, il faut absolument au moins une correspondance à Barcelone. Vous n'avez pas de Paris-Madrid direct aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça existe à une époque, hein, mais ça n'existe plus aujourd'hui, en partie parce qu'on a fait disparaître, laissé mourir les trains de nuit. À l'époque, vous pouviez faire Paris-Madrid, Paris-Rome, Paris-Venise, qui sont parmi les liaisons les plus prisées en avion. Vous pouviez le faire en une nuit, quoi. Donc, c'était particulièrement pratique. Vous partiez le soir de Paris et vous arriviez le matin dans votre ville de destination. Je dis Paris parce que c'est souvent Paris, mais si on vient d'une autre ville, moi, j'habite pas à Paris, j'habite à Marseille. Voilà, on pouvait aussi, avec le train de nuit, s'arrêter plus facilement dans les autres villes françaises. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et du coup, ça demande de faire des correspondances. Alors, les correspondances, on en a tous fait en train. On sait faire. Mais ça pose plusieurs problèmes. D'abord, c'est plus long, c'est plus compliqué. Et puis surtout, les trajets, on va peut-être en parler, sont pas toujours affichés sur SNCF Connect quand il y a une correspondance. Et en plus, si vous ratez la correspondance, potentiellement, vous allez devoir repayer un billet. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses qui font que... si on ajoute le prix en plus, on va dire que ça peut être souvent plus facile d'aller réserver sur Skyscanner son billet d'avion le moins cher pour Madrid. Ouais.
Et Alexis, j'ai peut-être une question un peu simple, un peu débile, comme on dit, mais des rails en Europe, il y en a partout. Pourquoi les pays européens ne se mettent pas un peu d'accord sur un... On va dire un grand réseau. Pourquoi on ne ferait pas un grand réseau de rails européens qui permettrait de se déplacer facilement de la France à je sais pas, à la Norvège, de la France à l'Espagne? Il me semble que, par exemple, comme vous venez de le présenter, France-Espagne, c'est assez compliqué. France-Italie aussi. Il me semble que, par contre, France-Europe de l'Est, c'est plus simple. Par exemple, France-Allemagne. Pourquoi on ne peut pas bouger si facilement en Europe en train?
Alors, il y a déjà quand même beaucoup de rails qui existent, dont un réseau à grande vitesse qui est quand même assez développé en Europe. Pour les auditeurs, les auditrices que ça intéresse, vous tapez carte train à grande vitesse, vous verrez, il y a une carte sur Wikipédia qui est assez claire. On voit quand même que le réseau s'étend. Donc on a aujourd'hui quand même pas mal de rails. Par exemple, pour aller à Madrid, à part un petit tronçon, un tronçon entre Montpellier et Perpignan, où il n'y a pas de ligne à grande vitesse, tout le reste, c'est de la ligne à grande vitesse. En gros, de Paris jusqu'à Montpellier, c'est de la ligne à grande vitesse, et de Perpignan jusqu'à Madrid, c'est de la ligne. On a même creusé un tunnel sous les Pyrénées, qui était un truc dantesque. Je ne sais pas si on a bien fait de le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, il est là. Et il y a seulement 3-4 TGV qui passent tous les jours dans ce tunnel-là. C'est vraiment dommage. Donc, en fait, le problème aujourd'hui n'est pas forcément le problème des rails ou du réseau. mais le problème de l'offre et du nombre de trains qui passent sur ces rails. Typiquement, cet exemple, il est assez bon, l'exemple du tunnel entre Perpignan, côté français, et Figueras, côté espagnol. Il y a 4 trains par jour, quoi. Et même le tunnel sous la Manche, alors il y en a plus, il y en a une douzaine, une quinzaine, faudrait que je vérifie, mais ça reste complètement sous-utilisé. Et donc là, ce qui manque, c'est des trains, quoi. Il manque des trains. Il n'a pas assez de trains en Europe.
Merci beaucoup pour ces explications, Alexis. On va faire une petite pause musicale et on revient juste après. Alors, on écoute Zemp avec le titre « Trying to say something ».
La matinale de...
Trying to say something. Just got here to. Trying to say something. Just got here to.
Écoutez Zep avec le titre Trying to say something. Il est 19h18 et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
On retrouve tout de suite notre invité Alexis Chailloux et Marine.
Alexis, donc vous venez avant la pause musicale d'évoquer un point qui nous a un peu marqué. Vous dites que c'est pas un problème de rail, mais c'est un problème d'offre. Quel est le problème avec cette offre ? Et question parallèle, pourquoi cette offre est si chère finalement ? Parce que on nous dit prenez le train, c'est un impact environnemental moins fort, mais l'offre est extrêmement chère. Les billets sont quand même hors de prix, que ce soit pour faire des longues ou courtes distances finalement.
Oui, alors c'est deux questions différentes, mais elles sont un peu liées, donc je vais essayer de répondre aux deux, puis vous me dites si c'est clair ou pas.
Mais
la question du prix et la question de l'offre, aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas assez de trains, ça c'est quelque chose qui est partagé, la SNCF sera d'accord avec ce que je dis, c'est pour ça qu'elle commande des nouvelles rames de TGV là. En gros, la demande de trains a tellement grandi vite que les compagnies ferroviaires ne sont pas à même d'y répondre aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, pour le week-end de Pâques, là récemment, il y avait plein de trains en France qui étaient complets. C'est juste qu'en fait, la demande est trop haute, notamment pendant les pics, par rapport à ce que la SNCF en France et les autres compagnies aussi sont capables d'offrir. Donc les compagnies sont en train d'essayer d'acheter le plus vite possible des nouvelles rames, notamment en rames TGV. Donc ça va se résoudre au fur et à mesure. Mais après, il y a une deuxième question qui est la question de l'affectation de ces rames TGV, quoi, de ces trains. En gros, il y a les questions du nombre de trains dont on a et où est-ce qu'on les met. Et aujourd'hui, on se rend compte que la SNCF et les autres compagnies ferroviaires européennes mettent beaucoup leurs trains sur, on va dire, les liaisons TGV les plus rentables. Là où elles peuvent faire le plus de cash. Donc typiquement, ça va être Paris-Lyon-Marseille, Paris-Bordeaux en France. Mais ça va être Madrid-Barcelone en Espagne, ça va être Milan-Rome en Italie. Et bon, on pourrait dire que c'est pas grave, mais si, c'est un peu un problème parce que du coup, elles ne le mettent pas forcément autant qu'il faudrait sur les liaisons transfrontalières, donc entre les pays. Si vous combinez ça avec le fait, ce que je vous en parlais tout à l'heure, le fait qu'il n'y a plus de train de nuit en Europe, alors que le train de nuit c'était particulièrement pertinent pour faire des très longues distances. À l'époque, on pouvait aller jusqu'à Varsovie en une nuit, et jusqu'à Séville, jusqu'à Rome, donc des destinations qui sont quand même assez lointaines. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et on ne parle pas d'une époque préhistorique, hein. C'était avant le Covid, vous aviez un Paris-Venise en train de nuit direct. Avant le Covid, il y avait un Hendaye-Lisbonne, donc Hendaye dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui ne situent pas, à la frontière espagnole, Hendaye-Lisbonne. Donc on pouvait, si on habitait à Bordeaux, partir en fin d'après-midi et puis arriver à Lisbonne en fin de journée, aujourd'hui, enfin le lendemain matin, pardon. Aujourd'hui, si vous voulez à Lisbonne, il faut faire 4 ou 5 changements. C'est un parcours du combattant. Et juste pour finir sur la question de l'offre et le prix, pourquoi c'est lié ? Parce qu'en fait, les compagnies ferroviaires comme les compagnies aériennes font désormais ce qu'on appelle la tarification dynamique. Ça veut dire quoi, ce terme technique ? C'est un peu comme les concerts. Je ne sais pas si vos auditeurs, vos auditrices partent en soirée pour les concerts.
C'est ça.
Si vous êtes early bird, vous allez payer pas trop cher. Par contre, si vous vous pointez à la soirée à 1h du mat, vous allez payer plein pot. Bah, c'est pareil pour le train. Si vous prenez longtemps à l'avance, vous allez avoir des prix qui sont corrects. Si par contre, vous prenez au dernier moment, vous allez payer super cher. La maxime qui résume ça, c'est que les enterrements payent pour les mariages. En gros, c'est un enterrement. Vous allez devoir prendre un billet au dernier moment, alors qu'un mariage, vous pouvez le programmer. Et ça, en fait, ça a un lien avec l'offre, parce que plus il y a d'offres de trains, plus du coup, il y a de possibilités pour les passagers. À l'inverse, moins il y a de trains, plus la demande va être forte sur les mêmes trains, et donc plus les prix vont grimper super vite. Et donc là, on se retrouve un petit peu coincé, avec des prix extrêmement hauts, en partie pour ça, et également, et je finirai là-dessus, et je peux développer plus, mais j'ai peur d'être trop long, par le fait que le TGV n'est pas subventionné. Il n'y a pas du tout de subvention pour le TGV en France, à l'inverse, par exemple, de l'aérien, où oui. On va avoir pas de taxe sur le kérosène, pas de TVA sur les billets d'avion internationaux, enfin plein d'aides directes ou indirectes au secteur aérien, alors que vous l'avez dit en intro, c'est beaucoup plus polluant. Quand on dit beaucoup plus, ça veut dire que Paris-Madrid, c'est 40 à 50 fois plus polluant en avion qu'en train.
D'accord. Et dans votre rapport que donc on a lu avant, vous parlez énormément de la plateforme SNCF Connect. On l'utilise tous. C'est là où on prend nos trains pour la plupart. Il en existe d'autres, des plateformes. Vous faites la comparaison avec une autre plateforme, il me semble, qui s'appelle Trainline. Qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Et qu'est-ce qui fait que Trainline fait ressortir des incohérences ou des bugs, on va dire, de SNCF Connect?
Ouais, donc SNCF Connect, c'est vraiment la plateforme historique qu'on connaît toutes et tous. Elle vend à peu près 80-90% des billets de train en ligne pour les particuliers. Donc c'est vraiment ultra dominant. Donc ce que fait SNCF Connect, on va dire, va avoir une influence sur tous les passagers en train, puisque c'est ce qu'ils voient sur la plateforme. Ce qu'on a observé en comparant les deux plateformes que vous citez, donc SNCF Connect et Trainline, c'est que SNCF Connect est beaucoup moins efficace pour afficher les liaisons en correspondance vers l'Europe. Alors on pourrait se dire c'est pas grave, on prend que les trains directs, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'essentiel des trajets vers l'Europe, genre Paris-Madrid ou Paris-Rome, il faut une correspondance. Avec SNCF Connect, vous allez pouvoir aller jusqu'à Barcelone ou Milan, mais vous pouvez pas aller après Milan. Pourquoi ? Parce que SNCF Connect, qui appartient à la SNCF donc, ne veut pas afficher, ou en tout cas n'affiche pas aujourd'hui, d'autres compagnies ferroviaires qui ne sont pas la SNCF, ou en tout cas on affiche très peu. Par exemple en Italie, vous avez deux compagnies, Trenitalia, qui est l'équivalent de la SNCF en Italie, et Italo, qui est une nouvelle compagnie. Et bien aucune des deux n'est affichée sur SNCF Connect. Résultat, vous pouvez aller jusqu'à Milan, comme je disais, mais par contre, n'importe quelle ville où vous voudriez aller après Milan, je sais pas, à Naples, à Rome, à Venise, à Florence, à Bologne, où vous voulez, eh ben, vous n'aurez pas l'information, vous ne pourrez pas réserver le billet sur SNCF Connect. Par contre, sur Trainline, qui est donc un comparateur, enfin une sorte de comparateur pour le train. Là, vous allez avoir beaucoup plus d'options pour voyager en Europe, ce qui fait que, en général, les gens qui voyagent régulièrement vers l'Europe n'utilisent pas SNCF Connect, mais plutôt une alternative comme Trainline. C'est pas la seule, hein. Vous avez Omio, vous avez Combo, vous avez Rail Europe. Il y a d'autres plateformes qui existent. Même la plateforme parfois de l'équivalent de la SNCF, donc la Deutsche Bahn en Allemagne, est parfois plus efficace que celle de la SNCF et a parfois des prix qui sont plus bas. Typiquement, si vous allez en Allemagne, je conseille fortement aux personnes qui nous écoutent d'aller plutôt sur le site de la Deutsche Bahn parce que souvent, il y a des tarifs qui sont plus avantageux. Donc voilà, ou sur Trainline ou sur des comparateurs parce que là, vous allez avoir en tout cas accès à toute la gamme tarifaire et à toutes les options. Voilà. Donc aujourd'hui, pour vous répondre, ouais, Trainline est plus efficace que SNCF Connect. C'est ce que le rapport a montré. Et du coup, nous, on demande à un changement de réglementation pour que ces trajets avec correspondance vers l'Europe là soient bien affichés sur SNCF Connect, parce que là, voilà, les gens qui nous écoutent peut-être demain iront sur Trainline, et tant mieux pour elles et eux, mais il y a beaucoup de gens qui ont encore le réflexe SNCF Connect.
Donc le conseil, c'est faire des frais d'infidélité à SNCF Connect. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour nos auditrices vis-à-vis de, par exemple, l'été qui approche, peut-être que certains et certaines ont envie de découvrir des capitales européennes. Donc en plus de checker un peu sur Trainline, est-ce qu'il y a des itinéraires qui sont accessibles en train et qui a des tarifs abordables?
Ouais, carrément. Alors il y en a, hein. Par exemple pour aller à Milan, comme on commence à avoir un petit peu d'offres justement, il y a 5 trains par jour. Vous allez trouver des trajets. Alors ça dépend évidemment de la période, hein. En plein été, c'est pas forcément le moins cher, mais vous allez trouver des trajets qui sont somme toute très corrects pour une distance Paris-Milan. Ça doit faire pas loin de 800-900 km. Donc là, vous allez trouver des choses correctes. Pour aller à Bruxelles, il y a un nouveau service qui s'est lancé là, donc de Ouigo, en partenariat entre la France et la Belgique, qui permet d'aller à Bruxelles. C'est un peu plus long, mais vous avez des tarifs extrêmement bas. Il y a une nouvelle compagnie là qui s'appelle European Sleeper, qui a relancé un train de nuit vers Berlin. Avec une différente gamme de confort, et si vous êtes prêt à passer la nuit sur un siège, sur un siège de train, on va dire classique, inclinable, mais qui est pas un vrai lit,
ou sur
là vous allez avoir des prix qui sont corrects. Il y a absolument des couchettes, mais forcément plus vous, enfin voilà, on a trois niveaux de confort de mémoire. Il y a trois niveaux de confort. Il y a les sièges qui sont évidemment les moins chers, les couchettes qui sont à un prix supérieur, et puis après vous pouvez carrément privatiser un compartiment. Là, ça sera plus cher assez logiquement. Donc ça existe. C'est juste que nous, on regrette un petit peu aujourd'hui que on fasse autant de cadeaux fiscaux à un transport aérien. On a rien contre les avions à soi, on a évidemment rien contre les gens qui prennent l'avion, mais c'est juste un peu aberrant qu'on encourage un système qui est polluant alors que on pourrait tout à fait mettre cet argent-là dans le développement de l'offre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et puis dans des passes. Typiquement le pass rail qui existait il y a 2 ans et qui a été supprimé par le gouvernement, alors qu'il coûtait pas grand chose en plus à l'État. C'est vraiment dommage. Pour mémoire, pour les gens qui connaissent pas, le pass rail, ça vous permettait de voyager en TER et en intercité en illimité pendant un mois ou deux. Ça coûtait de mémoire 30 ou 50 euros, je sais plus. Enfin, c'était largement rentable presque dès la première utilisation sur un voyage. C'est ce genre de mesures là qu'on aimerait voir prendre pour inciter vraiment à prendre le train. En Lituanie, là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le gouvernement, alors c'est un plus petit pays, c'est pas forcément complètement comparable, mais le gouvernement a décidé de diviser par deux le prix des trains, on va dire l'équivalent des trains régionaux.
D'accord. Merci beaucoup, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Alexis Jailloux d'avoir été avec nous et nous avoir éclairé.
Je vous en prie.
Merci bien, au revoir. Et tout de suite, le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Le tour de l'actualité, c'est avec vous, Salomon.
Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité. On commence à l'international avec les tensions autour de l'Iran. La situation militaire dans la région continue d'inquiéter les marchés. Les frappes et menaces sur les installations pétrolières font craindre les perturbations de l'approvisionnement mondial. Résultat immédiat, les prix du pétrole repartent à la hausse, avec un impact direct attendu sur les carburants en France et donc sur le pouvoir d'achat. En Île-de-France, un accident s'est produit sur la Seine à hauteur de Juvisy-sur-Orge. Selon les premiers éléments, une collision impliquant une embarcation a mobilisé d'importants moyens de secours et plusieurs personnes ont été prises en charge. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident qui relance la question sur la sécurité sur le fleuve. Autre sujet de l'actualité, la montée des actes antisémites en France. Les autorités signalent une recrudescence d'incidents visant la communauté juive dans un contexte international tendu. Le gouvernement appelle à la vigilance et rappelle la fermeté de la loi face à toute forme de haine ou de discrimination. En sport, les supporters du PSG affirme un enthousiasme total et rêve d'une qualification et pourquoi pas d'un second sacre. Mais attention, rien n'est joué d'avance dans cette compétition où chaque détail compte. Le PSG devra rester concentré pour déjà valider son ticket pour la finale. C'était l'essentiel de l'actualité de ce soir.
Merci beaucoup Salomon Patrick, on se retrouve tout à l'heure hein, pour le Zoom. Tout de suite on va faire une petite pause musicale, on va écouter Keitranada feat Kali Uchis avec le titre 10%. Il est 19h31 et vous êtes sur Radio Campus Paris. À tout de suite.
Take it from me, but where's my 10%?
Nous venons d'écouter Kaitranada, feat Kali Uchis avec le titre 10%. Tout de suite, c'est l'actu.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
La chronique actu, c'est avec Anaïs. Et Anaïs va nous parler des miroirs connectés. Qu'est-ce que c'est ?
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir Francesca. Quel est ce miroir connecté hors de prix qui obsède les fans de beauté en ce moment ? Eh bien, je vais vous en parler tout de suite. Faisons le point sur ce gadget à 795 $, soit 680 €. En effet, ce miroir intelligent, donc Swan Beauty, qui rend les maquilleurs plus célèbres, alors que les tutoriels de beauté sont omniprésents, il est difficile de les reproduire chez soi. En clair, le miroir Swan Beauty a décidé de combler le gouffre entre ce que l'on voit sur l'écran et le résultat obtenu devant son miroir. Ce gadget connecté, faisant à la fois office de maquilleur professionnel et ou encore d'analyseur de peau, est devenu le numéro 1 sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. À la différence des autres miroirs connectés présents sur le marché, il a une capacité d'interaction personnelle avec le visage des passionnés de beauté. Car en scannant les traits du visage, il analyse les proportions, la forme des yeux, des lèvres, de la mâchoire et génère des tutoriels spécialement adaptés à la morphologie. Il ne s'agit pas de tutoriels filmés sur un modèle quelconque, mais des instructions directement projetées sur le visage. Miroir connecté trop cher ou investissement justifié ? C'est évidemment la question que tout le monde se pose en ce moment. Mais oui, pour les fans de beauté. La réponse dépend de ce que l'on attend. Pour celles jonglant entre plusieurs produits onéreux, des applications de soins, la marque Swan représente une consolidation plutôt qu'un achat impulsif. D'autant que les miroirs comparables et ne possédant pas les fonctionnalités intelligentes coûteraient donc 600 $. En revanche, pour celles qui souhaitent apprendre à se maquiller autrement qu'en reproduisant les mêmes erreurs, c'est l'investissement le plus honnête dans le rayon beauté, surtout à l'heure actuelle où je vous parle.
Merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup de nous avoir éclairé. Tout de suite le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
À l'occasion de la sortie de son troisième album, il est avec nous, l'artiste Abraham Mansfarol. Il est là, il va nous faire un petit live tout à l'heure, donc ne partez pas après l'interview. Et cette interview, ce sera menée avec Salomon.
Alors, lui, c'est le genre d'artiste que tu écoutes une fois et après tu te dis, attends,
encore.
C'est moi qui ai changé ou c'est la musique qui m'a parlé. Un univers bien à lui. Une vibe qui traverse les frontières et surtout une identité artistique originale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mansfarol. Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup.
Alors, dis-moi, Mansfarol, Abraham, c'est ton nom d'artiste ou c'est le nom d'un sort magique pour ensorceler les playlists ?
Et c'est le nom d'artiste. Mansfarol, donc il essaie de faire mon mieux de la musique pour enchanter les oreilles et les âmes aussi.
Ok. Dis-moi, ton style est difficile à mettre dans une case et ça, c'est souvent la marque des meilleurs artistes. Tu dirais que tu fais dans quoi exactement ? Afro, humain, spirituel ou un mélange de tout ça ?
Un mélange de tout. Toujours comme la cuisine. La musique, c'est comme la cuisine.
Un mélange de tout. Il n'y a aucun registre où on peut te caser.
Si je laisse ça pour les auditeurs qui vont dire je préfère, c'est plutôt afro-cubain, non, c'est plutôt caribien, c'est, ou africain, ou spirituel. Pour moi, c'est ma musique, c'est la cuisine.
Ah, d'accord. Dans ta musique, on sent quelque chose de profond. Presque un don. Tu penses que la musique t'a choisi ou c'est la musique qui t'a poursuivi ?
C'est moi qui... c'est moi qui poursuis toujours la musique.
Ouais.
C'est moi qui cherche tout le temps. C'est pas elle, je crois pas, c'est moi.
Il faut dire également que Mansfarol, pour le moment, vous avez une identité très forte et clairement un artiste à suivre de très très près. Dites-moi, Le troisième album, c'est bien Africa. Africa.
Si.
Ça veut dire.
Mais oui, ça veut dire que toute la richesse musicale dans le monde, quelque part, il y a l'Afrique là-dedans. Même je dirais, dans la musique classique. Certains polyrythmes, certains patterns rythmiques, ça vient de l'Afrique.
Ah. Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans cette musique ? Ce troisième album, il faut dire, c'est le troisième. Et qu'est-ce qu'il a de différent des autres ?
La différence des autres, c'est qu'il y a plus d'invités. Il se fait les liens entre la musique afro-cubaine et la musique africaine.
Ah, d'accord.
Et dans lesquels je veux faire les ponts entre les autres musiques. Ma vision de la musique cubaine et de la musique africaine.
Dis-moi, le premier micro, le premier texte, tu t'en souviens, toi ? Est-ce que... ou tu préfères ne pas en parler ?
Non.
Il faut dire que depuis, le chemin s'est tracé. Comment est-ce que tu vois ton évolution aujourd'hui ?
Je suis content de l'évolution musicale et même personnelle. Et je trouve que chaque être humain, il peut aller très 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 loin dans ses recherches et dans son objectif comme personne.
On parle de ton dernier projet qui est bien évidemment Africa. Si déjà le titre intrigue, c'est une déclaration, un hommage ou un message ?
Non, c'est une déclaration d'amour à l'Afrique.
Ah d'accord.
Oui.
C'est profond ça.
Bah oui.
Dans cet album, qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent en premier ? L'énergie, les racines ou le message ?
Non, les racines. Les racines, qui cherchent les racines, qui voient les liens entre différentes cultures.
Si tu devrais donc présenter Africassi en quelques phrases, qu'est-ce que tu allais dire ?
En quelques phrases, je dirais d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, la même expression, toute la musique afro-cubaine vient de l'Afrique. Donc, il n'y a pas que la afro-cubaine, il y a la brésilienne, la nord-américaine, caribéenne, donc.
Bon, là, il faut dire, on a parlé, mais la radio, c'est aussi du live. Hein. Est-ce que tu peux, peut-être, avec un petit moment brut, nous donner un extrait, un acapella, juste pour donner la vraie vibration de Mans Farol ?
Bien sûr.
Est-ce que je peux me permettre, j'ai une petite question avant qu'on prenne le live. Alors, j'ai su aussi que vous avez été professeur avant, c'est ça ?
Toujours.
Vous êtes toujours professeur, toujours, d'accord ? Toujours. Mais ce que vous n'avez pas dit, parce que moi, du coup, je vous ai cherché, que vous avez collaboré avec Charles Aznavour, Chucho Valdé, Brahim Malouf. Alors, vous êtes là, il est solo. Ceux d'avant, ils étaient solo. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire, de vous envoler, on va dire. Et vous collaborez encore d'ailleurs ? C'est la deuxième question.
Si, je collabore toujours avec des grands artistes internationaux. Mm-hmm. Mais une de mes dernières collaborations, c'était avec Rosalía.
Pardon.
Il y a pas mal de gens qui s'étonnent, mais vous avez la chance qu'on a à Paris d'avoir des croisés. Différentes cultures. Donc aussi dans mon disque, j'ai la collaboration de Valaki Sissoko, un grand artiste malien. Et ça, c'est Paris. Paris m'a permis de croiser dans ma route musicale certains grands artistes. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de me développer et de lancer tous mes projets musicaux. Parce que chaque artiste, chaque musicien aussi, il y a des histoires à raconter et sa vision de la musique. C'est important.
Et puis mélanger les cultures.
Toujours.
Alors.
Mans Farol, dites-moi, c'est quoi votre programme immédiat ? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer après la sortie de cet album ?
Après la sortie de l'album, on va faire des showcases, on va continuer à faire des promotions de radio.
Ouais.
Et j'espère avant la fin de l'année faire un concert à Paris, dans une grande salle parisienne. Donc je verrai, c'est l'évolution. J'espère qu'il y aura des festivals qui vont intéresser. Ils vont être intéressés pour le projet Africassi. Donc, quel bonheur.
Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments, je veux dire, sonores au niveau du rythme que vous avez ajouté dans votre troisième album ?
Non, non, non. Je garde toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes racines afro-cubaines. Et avec des nouvelles épices, d'ailleurs. Comme un magicien. Je prends ça, je prends d'autres choses.
Oui. Est-ce que vous gardez également le même orchestre que nous avons eu à voir souvent sur scène?
Ça dépend. Moi, j'aimerais avoir toujours les mêmes musiciens. Mmh. Vous avez parfois, certainement, tous les musiciens ils sont pris ailleurs. Mais j'ai déjà une grande équipe qui me suit depuis 10 ans. Des artistes différents. Il y a des Cubains, il y a des Français, il y a des Africains, il y a des Maliens. Donc, j'essaie à chaque fois et développer ma musique et aller au-delà de ce que les gens s'attendent et moi aussi, j'attends. Mmh.
Maintenant, sur l'échelle de 10, comment est-ce que vous pensez que les mélomanes ont pu accueillir votre troisième album?
Je dirais 7, 8.
Ça veut dire que ça marche très fort d'ailleurs.
Oui, c'est Mans
Farol. C'est Mans Farol qui fait ça?
Pas que Mans Farol, il y a aussi les musiciens. Il travaille des pas mal de gens autour de moi, les attachés de presse, la communication, qui aident aussi à faire connaître ma musique.
Quels sont, je veux dire, vous espérez quoi après cette sortie du troisième album? Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez?
Moi, il y a deux souhaits. Mmh. En 2027, pas en 2026, mais en 2027. Ouais. Moi, j'aimerais aller en Afrique à jouer, au Congo, au Cameroun et à Cuba. Donc, c'est-à-dire présenter le projet soit en Afrique ou en Afrique et à Cuba. Ça, c'est mon grand rêve.
Vous avez des contacts déjà pour...
J'ai déjà envoyé certaines connexions à ma presse, ça prend du temps, la réponse, et surtout toujours les budgets. Quand je parle qu'il y en ait 10 musiciens ou 14 musiciens sur scène, et tout le monde commence à rigoler.
Ça refroidit cette...
Non, ça refroidit pas. Les gens ils disent, c'est un rêveur. J'ai dit, oui, voyez, c'est un rêveur. Si on rêve pas dans cette vie,
on peut rien faire.
Ça, non, on dit que c'est plié, tout est joué en avance. Ouais. Non, il faut continuer à rêver, en grande et lutter pour ses rêves, il est réalisé.
Ah, tout à fait.
Est-ce que ça arrive encore, ça, justement, quand on a collaboré avec plein de personnes, on a rencontré des grands artistes, est-ce qu'il y a encore des doutes après ces quelques années? Est-ce qu'on se pose encore des questions sur l'avenir?
Bien sûr qu'on se pose des questions. On est des humains.
Oui.
Bien sûr qu'on se pose des questions, et c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Si on ne se pose pas de questions, à un moment donné, il y a un problème.
Mais ça rassure quand même. Quand je vois votre bibliographie et les personnes avec qui vous avez collaboré, je me dis waouh, il y a quand même, enfin, il y a du talent, c'est sûr. Mais je me dis, on est sur quelque chose de solide. Est-ce que on doute encore quand on est sur un troisième album où on est plutôt serein et juste le partage en fait finalement.
Les doutes aussi, ça fait avancer. Mmh. Et il reste aux auditeurs d'écouter et dire les derniers mots.
Oui, alors là ce soir, nos auditeurs, auditrices vont vous écouter, mais est-ce qu'il y a déjà des dates pour des choses? Vous avez parlé de showcase tout à l'heure. Si. Est-ce qu'il y a déjà des dates prévues dans les jours, semaines qui vont suivre?
Il y a les 24 mai en showcase à Cultura à Clé-Suy. Dans les 77. Okay. 77.
D'accord.
Et peut-être après, il y aura une date dans la ville d'Échelle, mais on est en train de mettre ça en place.
Et on peut trouver ça où
L'album, on peut le trouver à la FNAC.
J'ai vu en 10h, j'ai vu sur les plateformes de stream.
Aussi à la FNAC. Il faut rappeler les gens que les disques physiques
existent aussi.
Exactement. Même si l'écoute aujourd'hui de la musique, ça passe par les plateformes. Mm-hmm. Et moi, ici, un des musiciens qui défend les disques physiques. Parce que c'est parti comme. C'est, la musique en live, c'est comme un disque en physique. C'est là les résultats des plusieurs années de recherches, de travail. Et il n'y a pas mieux.
Oui, bien sûr. Mais alors, lecteur CD, je ne sais pas si on en a encore.
Il y en a.
Oui.
Et il faut le chercher, c'est comme tout.
Parce que, alors, vinyle, je sais que ça se fait des. Enfin, maintenant, il y en a plus en vente, mais c'est vrai que CD. D'accord. Donc, vous pouvez aller le chercher à la FNAC. Et pourquoi pas les streams, il y a un sujet particulier sur les plateformes de. Parce que tout le monde.
Tout le monde va chercher parce que c'est le moyen les plus sûrs. Maintenant, les gens qui m'écoutent, ils vont chercher.
Oui.
Mans Farol, ils vont tomber sur Spotify, sur toutes les plateformes. Mais je dis que c'est dommage parce que ces plateformes, ça correspond pas à la réalité de tous les artistes.
Oui. Alors, est-ce qu'on va avoir ce plaisir de vous écouter là en live?
Bien sûr, bien sûr.
À tout de suite. Donc, restez avec nous. On va tout de suite écouter donc en live c'est un extrait de cet album. Allez-y, allez-y. Il y en est prêt. Ouais.
Tout est prêt.
Tout est prêt. Donc n'oubliez pas.
Tu commences.
Allez-y, allez-y. C'est parti. Génial, merci beaucoup. Alors, je rappelle donc le showcase le 24 mai à Clay-Souli, c'est ça?
Au magasin Cultura.
À 16h. Notez bien. En tout cas, c'est donc le troisième album qui s'appelle Africacy. Et vous trouverez donc l'album à la FNAC. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vance Farol. Merci infiniment.
Merci pour l'invitation. C'est tout un plaisir de partager ma musique.
Merci. Tout de suite, c'est la chronique de Hugo, de Gauthier.
La matinale de 19h.
C'est pas possible.
On en avait parlé pourtant.
Oh, non, mais c'est pas possible. Mais je révise tous les jeudis, comme c'est pas possible.
Oui.
Bonsoir Gauthier.
Bonsoir.
Je saute par la tête tout de suite. C'est n'importe quoi.
Mais cette semaine, c'est ma 80e chronique sur ces ondes. Et franchement, merci. Merci énormément d'être revenu. Ça me touche beaucoup. Franchement, je sais pas si j'aurais pu affronter ça tout seul. Installez-vous. Merci pour vos fleurs. Merci pour vos cierges. Je crois que tout le monde est là. Bonsoir et bienvenue dans cette veillée funèbre du mois d'avril 2026. Ce soir, nous sommes réunis pour dire un dernier au revoir à notre ami avec qui nous avons passé un mois entier. En effet, dans quelques heures, le mois d'avril 2026 nous quittera pour son grand voyage et ne reviendra plus jamais. Pendant l'éternité, nous serons dans le regret éternel de ne plus jamais le revoir éternellement. Alors oui, des mois d'avril, nous en connaîtrons d'autres, mais jamais un mois d'avril comme celui-ci, avec tant d'heures à l'intérieur. Tant d'événements nous sont arrivés à ses côtés. Pouvez-vous m'en citer un ?
Je sais pas.
La hausse des prix.
Le prix de l'essence.
Ouais. Maintenant, je vais vous laisser le micro pour que vous puissiez dire au mois d'avril 2026 à quel point celui-ci a compté pour vous en quelques mots. En racontant par exemple un souvenir commun qui vous a particulièrement marqué. N'importe quoi, hein. Par exemple, Francesca, je sais pas, raconte un truc que t'as fait en avril.
Oui, on a été goûter. Le midi.
Merci Francesca. Je suis sûr qu'avril 2026 appréciera cet hommage.
Non, curé, c'est la merde, t'en manges.
À avril 2026, tu comptais 30 jours.
Oh, bordel.
Et les 30 jours que tu avais nous ont fait vivre tant de choses, comme par exemple le 1er avril.
Sérieux?
Ou encore le 2 avril, ou bien le 3 avril. Vous rappelez du 4 avril? Parce que moi, oui, perso.
Non, mais j'aurais.
Et que dire du 5 avril? Je sais pas, moi. Je vous en pose des questions. Bon, c'est vrai, je n'étais pas non plus si proche que ça du mois d'avril 2026 cette année. Alors oui, il est unique, mais franchement, je sais pas si ça vaut le coup d'occasion.
Mais foutez de ma gueule !
Hein, quoi ?
Je suis cassé le cul pendant un mois à vous venir condamner ces concerts pour nous remercier et
avril 2026 Avril 2026, calme-toi. Ils savent juste pas comment te remercier. Ils sont timides, ils trouvent juste pas les mots pour dire à quel point...
Mais ferme ta gueule, toi aussi. T'es comme un doigt, Gauthier. T'es censé, tu penses qu'à ta gueule pendant un an. Ça, j'en ai fait attention à moi. Et voilà, je vais gagner dans 4 heures. Et personne en a rien à foutre.
Mais si, les gens en ont à foutre. T'as bien vu que la soirée entière de Radio Campus Paris t'était dit...
La soirée entière. Et dans tout temps, les gars, on se fait chier aux 2 minutes. Moi, je vais gosse, hein. On est chaud, les nous.
Avril 2026. Non, avril 2026, reviens.
Bah, il est parti.
Bah... Désolé que ce dernier hommage ait viré à la catastrophe. Je me tiens quand même à la sortie à votre disposition pour récupérer qui d'une pièce, qui d'un billet, qui d'un don sur ma page Patreon afin de rendre un dernier hommage à avril 2026. Bonne soirée.
Merci beaucoup Gauthier pour cette chronique. Et c'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'animation. Merci à nos invités. C'était Marine à l'interview. Merci Salomon pour le flash info et le zoom. Anaïs et Gauthier en chronique. Aude et Jeanne en coordination de cette émission. On revient lundi, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org ou sur Spotify pour écouter tous nos podcasts. Sinon, retrouvez-nous aussi sur Instagram. Très bonne soirée sur le 93.9.